Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Cube Radio.
Vous l'avez vu, vous l'avez lu, maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Compte en commun, la Nissan 200SX, la Chrysler 200, la Dodge Colt 200 et la Mercedes B200 avec le guide de l'auto.
C'est simple, 200!
Oui, parce que c'est la 200e du guide de l'auto. Bienvenue au guide de l'auto.
Bonjour Antoine!
Salut! Oui, c'est la 200e aujourd'hui. On n'a pas l'impression que c'est la 200e, mais c'est ce que nos chiffres puis nos notes nous disent. Alors, on voulait le souligner. Et puis, c'est une émission un peu spéciale parce qu'on reçoit aujourd'hui un porte-parole d'un constructeur automobile allemand dédié à la marque au Québec, Pierre Lupfunk, qui va venir nous jaser de son rôle en tant que porte-parole de Volkswagen. Mais avant tout ça, Germain, ben on va parler un peu de General Motors parce que il y a deux nouvelles qui ont suscité l'attention cette semaine. D'abord, le fait qu'on continue d'investir dans des moteurs à 8 cylindres chez GM. On n'entend parler que d'électrification, mais les V8 ont encore leur place, là, clairement.
Effectivement. Donc, chez GM, on a annoncé cette semaine l'investissement de pas moins $1 milliard dans une nouvelle génération de moteurs à 8 cylindres. Donc, comme tu le dis, on investit beaucoup dans l'électricité, dans la plateforme Ultium chez General Motors, mais on ne met vraiment pas de côté les moteurs V8. Ils semblent être là pour continuer. Ah, c'est une stratégie qui est différente de celle de Stellantis, par exemple.
Et de Ford.
Qui, de plus en plus, les élimine. Alors, voyons voir comment on pourra résister à l'évolution, finalement, chez GM.
Ben moi, en fait, tu sais, je me posais la question à savoir pourquoi est-ce qu'on se garoche littéralement dans la production de 6 cylindres biturbo-compressés, que ce soit des 6 en ligne ou des V6 ou même des 4 cylindres turbo-compressés pour venir remplacer des moteurs à 8 cylindres sur le marché nord-américain, lorsqu'on sait qu'un bon moteur à 8 cylindres peut consommer moins d'essence qu'un 6 cylindres. On le voit, là.
Mais on sait aussi que la réglementation d'un État à l'autre, d'une province à l'autre, d'un pays à l'autre va varier.
Mais pas en Amérique du Nord, pas tant que ça.
Non, c'est vrai.
C'est vrai du côté de l'Europe, mais à part le Québec, qui est assez sans dessein pour taxer à la cylindrée depuis 30 ans.
Je pense que sans dessein, c'est le mot.
Oui, puis ça, écoute, j'ai discuté cette semaine avec un attaché politique de Geneviève Guilbeault. On risque d'ailleurs de pouvoir lui parler d'ici quelques semaines à propos notamment de ce dossier-là. Mais revenons à nos flûtes. General Motors, qui continue d'investir dans des V8 qui risquent d'être plus performants, plus éco-énergétiques et probablement plus éco-énergétiques que les 6 cylindres qu'on vend actuellement chez Ford.
Et probablement hybride aussi. Là.
Et probablement hybride aussi, tu as tout compris.
Voilà.
Alors c'est le moteur V8 a encore sa raison d'être, mais c'est clair qu'il faut l'améliorer parce que depuis des décennies, on nous sert à peu près la même affaire chez GM.
Le 5.3, ça n'a pas beaucoup évolué.
C'est ça. Et ça consomme pas moins que 10 ou 15 ans, voilà. À part le fait qu'on a mis des meilleures transmissions. Ça change pas grand-chose. Peut-être une bonne nouvelle du côté de chez GM qui, parallèlement, continue de travailler à multiplier les offres électriques. Quoique là, il y a une autre ombre au tableau qui est arrivée cette semaine. Action collective autorisée contre GM, encore une fois, en raison de problèmes reliés à la Chevrolet Bolt.
Oui, donc la Cour supérieure a donné son OK, son approbation pour l'exercice d'une action collective contre GM avec la Chevrolet Bolt, les modèles 2017 à 2022, et ça inclut bien sûr la EV et la EUV. On vise un montant de $71 000 par individu, par unité. Comment on explique ça? Ben, c'est le prix de la voiture, mais également 38 $1 000 exigés en dommages et intérêts à titre punitif pour les fautes alléguées de GM. Donc, on y va le tout pour le tout.
Et je trouve ça extrêmement excessif.
Oui, ben finissons les faits d'abord et ouais. je te laisse commenter ensuite. Comment on explique la situation? Ben c'est assez simple. C'est que lorsque la problématique a été connue, on a demandé chez Chevrolet à ce que on limite la capacité de recharge à 90% et qu'on ne descende pas sous le seuil des 113 km d'autonomie pour éviter, pour diminuer les risques d'incendie et de pépins avec la batterie. Quel est le résultat de ça? Ben, le consommateur ne peut pas profiter pleinement du véhicule qu'il a entre les mains. Je te laisse commenter.
Et ça vaut plus cher que le prix de la voiture?
Ben, en même temps...
J'ai un peu de misère avec ça, d'autant plus qu'on a la preuve que les problèmes de la Chevrolet Bolt ont été symboliques. Il n'y a que très, très peu de voitures qui ont pris feu ou qui ont eu des problèmes en raison de ça. Puis on vient même intégrer des modèles 2022.
Oui.
Donc Bolt EV ou EUV.
Qui normalement aurait été équipé de la nouvelle batterie.
C'est ça.
Là.
Alors je trouve ça un peu particulier. Oui, il y aura peut-être un remboursement qui sera attribuable à certains consommateurs, mais je peux pas croire qu'on va donner 71 000 $ à chacun des propriétaires de Bolt qui ont déboursé à peu près 30 000 $ si tu inclus les crédits gouvernementaux pour mettre la main sur cette auto-là. Ça n'a aucun bon sens.
Qu'on accorde une partie en dommage parce qu'on n'a pas pu profiter...
Commence à regretter d'avoir acheté une 2023, d'ailleurs.
Mais tu sais, est-ce qu'en cours de route, on ne pourrait pas ajouter cette année modèle-là, peut-être?
Honnêtement, ça ne serait pas logique.
Est-ce qu'on pourrait dédommager une partie des propriétaires? Bon, je pense que ce serait de jouer de manière équitable.
En même temps, on les a dédommagés, les propriétaires, si tu veux mon avis. Pourquoi? Parce que la personne qui a acheté une Chevrolet Bolt 2017 ou 2018, à qui on a donné une batterie flambant neuve qui bénéficie aujourd'hui d'une meilleure autonomie que lorsqu'elle a acheté sa voiture neuve et d'une nouvelle garantie, je sais pas, mais moi je trouve que c'est quand même plus que raisonnable.
Mais pendant X nombre de mois, on s'est retrouvé avec un véhicule entre les mains qu'on ne pouvait pas utiliser pleinement.
OK, à 80%.
Oui,
Donc,
justement, qui
est... Moi, je suis pas le défenseur de GM, que là, on abuse.
Qu'il y ait une part de dédommagement, d'accord, ouais. 38 000 $ qui est plus que le prix déboursé final du véhicule, ça me paraît quand même un petit peu intense.
Un petit peu excessif,
là.
Exactement.
Autre nouvelle, cette semaine, on a dévoilé la Polestar 2 2024. Bon, quand on la regarde
sur
les photos, elle est identique, mais dans sa conception, dans son architecture, c'est complètement différent. Il faut savoir que dans sa version à un moteur, la Polestar 2 était jusqu'à l'année modèle 2023 une voiture traction, donc le moteur électrique était placé sur l'essieu avant, ce qui est c'était une stratégie différente des autres véhicules électriques de cette gamme-là qui sont des véhicules propulsés lorsqu'ils sont équipés d'un seul moteur. Ouais. Et là, on revoit le tout et on envoie le moteur unique sur l'essieu arrière. On a également augmenté sa puissance, donc de 170 à 220 kW. Et pour ce qui est de la version à double moteur, elle aussi, elle a été revisitée. Donc, elle sera... d'abord et avant tout une voiture propulsée avec une assistance à l'avant. Là. Donc,
voilà.
Sa conception est revue au complet. On a également majoré sa puissance. Donc, des bonnes mises à jour pour 2024.
C'est assez particulier. Bon, évidemment, nous, on présentera d'ici quelques semaines la Polestar 2 2023
bien
à l'émission
sûr.
Du Guide de l'Auto, qui est une voiture à traction.
Oui.
Qui ne sera plus commercialisée, visiblement, en 2024.
Je pense que ce sera une voiture assez rare, hein, parce que beaucoup de consommateurs ont opté, justement, pour une version à quatre roues motrices, surtout au Québec. C'est tout à fait logique, mais...
Parce que sans vendre la mèche, la conclusion qu'on a tirée de l'essai de cette voiture-là, qu'on a mis à l'essai sur le circuit de Mécaglis à Notre-Dame-la-Merci, c'est que pourquoi 5000 $ de plus, tu as la version à rouage intégral, qui est immensément plus intéressante et qui ne te pénalise qu'à peu près pas en matière d'autonomie. Alors, la recommandation qu'on fait, c'est d'aller vers le modèle à rouage intégral. Parce que, de toute façon, dans nos conditions, c'est ce que tu veux avoir. Après ça, on se rend compte que sur le marché de l'électrique, la grande majorité des constructeurs qui offrent des deux roues motrices proposent des voitures propulsées. Oui. C'est contre nature chez nous pour le marché du Québec, mais ici, on achète majoritairement, de toute façon, de la voiture à rouage intégral. Lorsque celui-ci est offert, évidemment, oui. Sur une Chevrolet Bolt, il n'y en a pas, ça règle la question.
Sur un Kona électrique, bon, c'est pas possible mais, non plus. Mais moi, tu sais, je suis pas ingénieur mécanique ni ingénieur électrique, mais de voir qu'une même voiture, d'une année modèle à une autre, les roues motrices passent de l'avant à l'arrière.
C'est assez particulier.
Ça fascinant. Ouais. Tu sais, on pourrait jamais imaginer une Volkswagen Jetta en 2023 être une voiture traction et l'année suivante être une voiture à propulsion.
C'est assez difficile.
C'est impensable, mais ouais. Là, avec l'électrique, tout d'un coup, ça devient possible. Et tu te rappelleras, quand on avait présenté là, les VUS chez GM, je crois que c'était le Blazer, on nous avait dit qu'il y aura des versions traction, des versions propulsion et des versions quatre roues motrices. Ouais. Donc, on a vraiment cette latitude-là sur le plan de l'aménagement mécanique. On a une grande liberté et c'en est un bel exemple avec la Polestar.
On pourrait même faire une voiture avec une roue avant gauche motrice. Il y a une roue arrière droite motrice. Okay. Ça serait bizarre, mais
ça serait assurément bizarre. Est-ce que ça serait fonctionnel?
Ça irait mal un peu. Hein?
Je l'ignore. Tu peux en parler aux ingénieurs chez Hydro-Québec là, qui ont planché sur le moteur roue.
Mais tu sais, si tu tournes tout le temps à gauche, peut-être que ça va bien.
Mais à Montréal, on tourne en rond. Alors ça, c'est une autre histoire.
Bon, c'est ce qui s'en vient chez Polestar. Puis évidemment, ça va arriver à peu près en même temps que le VUS Polestar 3, qui est très attendu lui aussi.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Antoine, dans quelques minutes sur la chaîne TVA, Gabriel, Gélina et toi présenterez le Mazda CX-50 à l'émission du Guide de l'auto à la télévision.
Oui, une version GT turbo compressée. Alors, c'est notre essai de la semaine. On va parler du constructeur Mazda. On va en parler d'entretien de plusieurs produits Mazda aussi, qu'on le sait, notamment une faiblesse au niveau des freins. Mais on met...
Ah bon? C'est un nouveau problème?
Un nouveau problème.
D'accord.
Mais on met ce véhicule-là à l'essai. On parle de la version Meridian. On va aussi parler des futurs produits Mazda, notamment des 6 cylindres en ligne, des produits électrifiés qui s'en viennent. Et il faut mentionner que d'ici quelques jours sera dévoilé le CX-90. Notre collègue Gabriel Gélina est en Californie pour assister à son dévoilement. On pourra conduire ce véhicule-là dans 2 mois à peine. Alors, on pourra vous donner nos impressions sur ce véhicule-là, qui sera le premier véhicule nord-américain de Mazda proposant un 6 cylindres en ligne turbo-compressé pour venir remplacer l'actuel CX-9 qui est en fin de carrière.
Un véhicule un peu vieillissant, on se le cachera pas.
Un peu vieillissant, mais sur lequel il y a actuellement des aubaines à faire et ça peut représenter honnêtement un bon parti pour quelqu'un qui a besoin d'un véhicule 7 passagers sans avoir de besoin de remorquage.
Oui, parce que pour ça les possibilités
c'est pas génial. C'est 3500 livres et honnêtement, comme on dit en bon français, il y en a plein sont derrière à 3500 livres.
Un support à vélo, je pense que ça va être dans le cas du CX-9.
Germain, t'as joué les pères de famille pendant 2 semaines. En fait, on a fait tous les deux un essai de fourgonnette parce qu'on va réaliser prochainement un petit match comparatif pour le site du Guide de l'auto. Mais toi, t'as conservé pendant 2 semaines la Pacifica hybride rechargeable que t'as mis à l'essai pour voir ce qu'elle avait à offrir. Est-ce que comme moi, tu as un peu trouvé que ce produit-là avait déjà vieilli?
J'ai trouvé que le produit avait vieilli, effectivement. Ça m'a moins marqué et moins déçu que toi, clairement, parce que la marge était tellement grande quand on avait l'ancienne Grande Caravane et la nouvelle Pacifica, que là, quand on compare la Pacifica avec les autres mini-fourgonnettes du segment, elle est juste normale. Là, elle n'a pas l'air d'un produit complètement révolutionnaire, comme c'était le cas quand on la comparait avec l'ancienne l'ancienne grande caravane. Cela dit, oui, elle a vieilli un peu. On l'a pas réellement fait évoluer. Là, on aurait pu la mettre à jour en cours de route. C'était une version hybride rechargeable, une version somme toute intéressante. Ce que je déplore de cette version-là, c'est que elle n'est pas compatible avec l'aménagement Stow & Go qu'on apprécie. Là,
parce qu'il s'agit d'une hybride rechargeable qui a des batteries au niveau du plancher.
Exactement, mais on sait que c'est un aménagement qui est pratique quand on veut se servir de ce véhicule-là comme pas un fourgon cargo, mais en tout cas pour transporter...
Oui, mais en même temps, moi, ce qui me déçoit le plus, c'est qu'on ne puisse pas combiner le rouage intégral.
Ah, ben oui, t'sais. Voilà. Parce que la Pacifica, elle peut être équipée du rouage intégral, mais dans ce cas-là, on doit renoncer à l'hybride. Alors, ça,
et si c'est... tu prends le rouage intégral, ça consomme comme un gros VUS. Oui, honnêtement, la technologie de rouage intégral ajoutée à la Pacifica régulière, ça fonctionne plus ou moins bien parce que la consommation est démesurément élevée.
Parlant de consommation, j'ai parcouru environ 1000 km au total, ouais, avec le véhicule. Environ 400 en mode électrique, là, selon l'affichage du tableau de bord, avec une consommation moyenne finale de 9,5 litres au 100 km. Bon, c'était réalisé au mois de janvier. C'est pas nécessairement des conditions idéales, mais ça demeure quand même bien plus élevé que la Toyota Sienna que tu conduisais également ces dernières semaines, ouais, qui, elle, n'a pas l'avantage d'être branchable.
Ben, donc, pour vous donner une idée, lorsqu'on a fait notre match comparatif, l'exercice qu'on a choisi de faire, c'est de dire on va parcourir 150 km chacun en se suivant un en arrière de l'autre, en faisant exactement le même parcours. Mais
trajet urbain, trajet...
c'est ça, on a combiné un peu de tout.
Autoroute, ville, pour essayer de reproduire le trajet que pourrait faire une famille, là.
C'est ça.
Sur une journée, par exemple.
Bon, alors un 150 km, oui. Évidemment que la Sienna que nous avions est une hybride non rechargeable, équipée des quatre roues motrices. On a fait 150 km et au bout de 150 km, la consommation d'essence était à 7 litres au 100, tout juste. Avec la Pacifica, on est parti pleinement chargé.
Oui.
On a roulé environ 50 km en mode électrique pour ensuite tomber en mode hybride. Et lorsqu'on a terminé notre 150 km, on était à 6,8 litres au 100. Donc, évidemment, lorsque le moteur se met en marche chez Chrysler, c'est un 6-cylindres de plus vieille technologie, la consommation d'essence est passablement plus forte que du côté de chez Toyota. C'est évident que si vous roulez très peu dans une journée, que vous faites moins de 60 km par jour, bien, la Pacifica peut être intéressante parce que là, vous roulez majoritairement en pure électrique, alors que la Sienna va vous donner cette même cote de consommation d'à peu près 7 litres au 100. Mais si vous roulez un peu plus et que vous faites de la plus longue distance, vous allez avoir avantage à opter pour la Toyota, d'autant plus que c'est un véhicule beaucoup plus fiable. D'ailleurs, on a dévoilé cette semaine un gros rappel concernant le groupe motopropulseur de la Pacifica Plug-in Hybrid, parce qu'on sait qu'il y a un problème relié à la mécanique de ce véhicule-là. Plusieurs consommateurs se sont plaints de la fiabilité, des problèmes de rendement du fait que le système hybride ne fonctionnait plus. Et ça fait quand même 6 ans
qu'il est sur le marché. Est-ce qu'on a une couette de fil orange sous la Pacifica?
Probablement, mais je pense que le problème est plus profond que la couette.
Ouais.
Fait que c'est le gros bémol de la Chrysler Pacifica, c'est sa fiabilité aussi.
On y reviendra dans ce texte plus élaboré sur les véhicules. Mais il y a une donnée intéressante. Il faut savoir que, bon, la Pacifica hybride rechargeable est éligible à 10 000 $ de crédit au total. Mais si on opte pour une version Pinacle, donc la plus luxueuse, on n'a pas droit aux 5 000 $ au Québec, mais on y a droit au fédéral. Donc, encore là, une énième incohérence entre le rabais fédéral et le rabais provincial. C'est fascinant de voir ça aller.
En même temps, combien vend-on de Pacifica Pinacle à 75 000 la copie, et il n'y en a pas des masses.
À mon avis, une version Touring, elle, fait amplement le travail. Ça sert à rien d'aller trop haut en gamme. Je sais qu'on a souvent vanté le système Uconnect parce que c'est facile à utiliser. Ben là, le Uconnect, il déconnectait. Là.
Ouais.
Ça m'a un peu déçu. Je sais pas si c'est une version plus récente du système, mais en tout cas, ce système qui fonctionnait très bien normalement m'a montré certaines lacunes au cours de cet essai-là.
T'es-tu installé à l'arrière pour écouter des films avec les écrans individuels qui étaient placés derrière les sièges? On se demandait, toi et moi, si c'était encore pertinent d'offrir ça, alors que les enfants ont toutes leurs tablettes puis leurs gadgets individuels.
Ben, t'sais, j'imagine que tous les enfants n'ont pas une tablette électronique, bien sûr, mais si les parents ont 75 000 $ pour acheter une mini-fourgonnette, ils ont certainement quelques centaines de dollars pour acheter une tablette que l'enfant peut trimballer n'importe où. Parce
ce qui est beaucoup plus logique.
La technologie dans l'appui-tête, c'est bien, mais elle reste dans l'appui-tête. Alors, mais oui,
je me suis... Oui, puis elle coûte 2300 $ l'option, alors que la tablette coûte quelques centaines de dollars.
Mais je me suis assis à l'arrière. Oui, c'est confortable, mais le gros de mon essai, je l'ai passé derrière le volant. De ton côté, Antoine, tu as conduit une voiture complètement différente de la Chrysler Pacifica, c'est-à-dire la Toyota Corolla GR.
Attention, c'est la GR Corolla.
Corolla.
Ouais, même dans tes notes, tu as fait l'erreur.
Bon. C'est la ouais. Guillaume Rivard.
Oui, c'est ça. Ou la Gazoo Racing Toyota d'accord. Corolla. Oui, alors, 3 cylindres turbo-compressés, 300 chevaux, 271 livres-pieds de couple, boîte manuelle 6 rapports, rouage intégral, une voiture d'à peine 1400 kg, donc très légère. Je l'ai conduit sur la route. C'est pas confortable. C'est une suspension en béton. Si vous êtes sur des routes avec des nids de poules, avec des crevasses, vous allez le sentir sérieusement. Les sièges, c'est bien. On n'a pas le support d'une Civic T-Pair parce que c'est la vocation d'une GR Corolla, aller rivaliser avec, par exemple, une Civic T-Pair ou une Golf R. Quoique c'est une voiture plus radicale, c'est certainement pas aussi luxueux et convivial qu'une Golf R.
On fait beaucoup plus de compromis en optant pour une Corolla GR qu'avec une Golf R.
C'est très bruyant. Je te dirais que le véhicule que j'ai conduit, il faut souligner, c'est un véhicule de pré-production. Donc, il y avait peut-être des petites lacunes d'assemblage.
En même temps, il y a bien des Toyota pré-production qui sont mieux assemblés que certains véhicules de production
clairement,
de d'autres marques.
Clairement, mais la voiture que j'ai mise à l'essai, quelques petites lacunes à gauche, à droite, notamment le système audio qui était épouvantable. Mais quand je te dis épouvantable, un radio réveil Casio sonne mieux que ça.
En même temps, on ne se démarque pas chez Toyota avec les systèmes audio.
Non, mais on a quand même mis les lettres JBL sur les haut-parleurs. C'est gênant pour JBL, là, vraiment. Ça sonne tout croche. Mais côté conduite, c'est extraordinaire. Parce que si tu te lances sur un circuit enneigé avec cette voiture-là, c'est tellement léger, c'est maniable.
Ce que tu as fait?
Ah oui, ce que j'ai fait. D'ailleurs, je suis même allé embrasser un banc de neige à un certain moment donné, joyeusement. On a enregistré une émission pour le guide de l'auto et puis j'étais dans une envolée lyrique et je me suis rendu compte que j'étais dans une envolée de glissade aussi et je n'ai pas récupéré la chose à temps, mais enfin bref, ça fait partie de la chose. Bon, pas de dommages là, sur l'auto, mais n'empêche, je me suis amusé pas mal. Cette voiture-là avec 4 pneus à clous, ça doit être phénoménal. Et ce qui est fascinant de la GR Corolla, outre le fait qu'elle a un freinage quand même assez performant, c'est le fait qu'on puisse verrouiller les différentiels à l'avant, à l'arrière, en redistribuant le couple de façon différente selon les besoins qu'on a. On peut barrer ça 50-50 avant-arrière. On peut offrir une distribution 30-70 à l'arrière. Donc là, évidemment que le survirage est beaucoup plus prononcé puis on s'amuse à faire de la drift. Et sinon, ben, c'est 60 à l'avant, 40 à l'arrière pour une distribution qui est plus raisonnable. C'est celle que vous allez avoir d'emblée lorsque vous démarrez la voiture parce que c'est ce qu'il y a de plus logique. Mais vraiment, côté conduite, c'est une auto ultra sportive, sans compromis. Il n'y a pas d'accoudoir central. Il n'y a pas de fioriture de luxe. Il faut savoir que...
Est-ce qu'il y a des portes-gobelets?
Il y a des portes-gobelets.
D'accord.
Et il faut savoir qu'il y a 3 niveaux de finition. Vous allez opter pour une version Core, qui est le modèle de base, qui coûte 48 000 $ et des poussières avec les frais de transport préparation. ajouter près de 8 000 $ de plus pour aller à la version circuit, qui, elle, va vous donner un toit en fibre de carbone, who cares. Vous allez avoir des surpiqûres rouges à l'intérieur.
Donc, on n'en a pas pour 8 000 $.
Quelques fioritures de plus esthétiques. Je pense qu'il y a un chargeur par induction, 2-3 babioles supplémentaires à l'intérieur. Puis oui, le look change un peu. Vous allez avoir des prises d'air sur le capot et des évasements d'ailes qui sont un peu plus larges, des trucs comme ça. Mais côté performance, vous êtes à la même adresse que si vous optez pour le modèle Core. Et Toyota propose même une version qu'on appelle Morizo, qui est le nom d'Akio Toyota, le surnom d'Akio Toyota, le fondateur de la marque. C'est son surnom en course automobile. J'ai dit le fondateur de la marque, mais c'est plutôt le président de la marque.
Oui.
Alors,
qui est un vrai amateur de conduite.
Qui est un vrai amateur de conduite. Et c'est son surnom en course automobile, Morizo. Alors, c'est pourquoi on lui a donné ce nom-là à la GR Corolla. Édition ultra limitée. Il en aura 9 sur le marché canadien seulement.
C'est la version sans banquette arrière, non?
Alors, sans banquette arrière, sans haut-parleur dans les portières, sans glace électrique à l'arrière. On l'a allégé de 45 kilos. C'est une véritable voiture de puriste. Comme je disais, 9 seulement seront offertes au Canada en une seule couleur, qui est une espèce de gris...
Gris
graphite, qui est vraiment unique. C'est ça. 9, et c'est vendu pour un peu plus de 62 000 $ pièce. Ça, c'est une véritable voiture de collection. Mais pourquoi on en a 9 seulement au Canada? Combien on en fait à travers le monde? Je trouve ça déjà curieux que Toyota ait choisi de faire différentes versions d'un modèle aussi niché. Il n'y a pas différentes versions d'une Golf R ou d'une
Civic. Non, il y a deux options, Cépère. La couleur puis le toit, c'est ça.
La Focus RS avait une seule version. Toyota multiplie les versions de sa gamme Corolla. Au total, il y a 17 possibilités dans la gamme Corolla cette année, mis à part les Corolla Cross.
On se rapproche de la 911, là.
Oui. Et attention, on a retiré toutes les boîtes manuelles de la gamme Corolla cette année, mis à part la GR Corolla qui y a droit, évidemment. Toutes les autres, c'est des boîtes CVT parce que les manuels ne se vendaient pas assez. C'était moins de 5%, peu importe la version. Alors, on a choisi de les éliminer tout simplement. Ce qu'on ajoute, par exemple, à la gamme Corolla cette année, dans des modèles plus rationnels, c'est le fait qu'on puisse obtenir une berline Corolla hybride avec rouage intégral en 3 niveaux de finition, LE, SE et XSE, pour une échelle de prix qui varie à peu près de 30 à 35 000 $ Et ça, c'est un auto qui consomme même pas 5 litres au 100. Alors, ça risque d'être assez intéressant parce que c'est la seule voiture de ce segment-là à offrir à la fois le rouage intégral et la technologie hybride. Je pense que ça va être un gros vendeur.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube Radio.
Germain, on sait qu'il y a une recrudescence des porte-parole automobiles au Québec et quand on regarde les choses aller depuis quelques années, c'est principalement des filles qu'on va chercher comme nouveaux porte-parole. Marie-Lou a remplacé Guillaume, notamment du côté de chez Hyundai. Marie-Lou Wolfe.
Qu'est-ce qui est arrivé avec Guillaume déjà? Non, on ne le sait plus, hein, c'est ça.
Mais bref, on voit ça aller depuis plusieurs années et... du côté de chez Volkswagen, on a fait les choses un peu différemment. Et j'essaie de me retourner dans le passé pour me souvenir quel était le dernier porte-parole de Volkswagen au Québec. Je pense qu'il faut remonter à loin, honnêtement.
Aux années 90?
Il faut remonter aux années 90. Et c'était Joël Legendre qui faisait les publicités de la Golf tu viens, interdit aux pépères.
Oui.
Ça fait longtemps. Jacques Villeneuve avait aussi fait des publicités de la GTI au tournant des années 2000. Mais après
Tasse-toi,
ça,
mon oncle.
Tasse-toi, mon oncle, c'est ça. Mais après ça, honnêtement, j'ai pas mal perdu le fil. J'ai pas souvenir qu'il y a eu un porte-parole au Québec. Et Volkswagen ben, a décidé de faire appel à Pierre-Luc Funk pour changer l'image de sa marque qui est en plein passage à l'électrification. Il est avec nous aujourd'hui. Salut Pierre-Luc.
Bien le bonsoir.
Bien le bonsoir.
Bonjour, bonjour. Oui, merci d'être avec nous.
Ben, ça fait plaisir.
Oui, et avec nous en studio, il faut le souligner parce que ça arrive assez rarement. Et tu me mentionnais avant l'entrevue que tu t'étais stationné en périphérie, mais tu t'étais pas branché parce que...
Non.
C'est ça, les bornes en avant du bureau ne fonctionnent pas.
Mais j'étais chanceux parce que je suis parti à 100 là, de chez nous. Là, okay. Fait que je suis rendu avec un ID4, là, fait que ça va bien. Là.
Et, okay. Et comme tu demeures à peu près à 5 km, tu as pu te rendre sans problème.
Ben, c'est ça, je suis pas en psychose là, par rapport à la recharge. Là, je me donne quand même un petit jeu. Là.
Okay. Bon, évidemment, avant de parler de ton rôle puis comment tout ça s'est passé, ton lien avec l'automobile en général, ça ressemble à quoi? Est-ce que tu es un passionné de voiture à la base? Est-ce que tu t'y connais un peu? Est-ce que tu as trippé avec une première bagnole que tu as possédée?
Ben oui, moi en fait, je viens de Laval, tu sais. Fait qu'à Laval, mettons, c'était un peu un incontournable de dès que tu avais l'âge de pouvoir passer ton permis.
Okay.
T'allais le passer, là, t'sais, parce que ça te donnait, mettons, une grande autonomie, là, t'sais. Puis, ben moi, chez nous, t'sais, c'est, mon père, il a toujours eu un rêve d'avoir un pick-up quand j'étais petit, mais t'sais, on n'avait pas, t'sais, on n'était pas une famille qui tripait sur les chars parce qu'on prenait plus les chars qui étaient à notre disposition plus que les chars, mettons, de rêve, là, t'sais.
Ouais, ouais.
Fait qu'on avait la bonne vieille minivan, là, t'sais, chez nous. Mais non, mais dès que j'ai eu 16 ans, moi...
Est-ce que c'était une Volkswagen Routan?
Non, c'était pas une Volkswagen Routan. Mais mon premier char, moi, je me rappelle, tu sais, j'ai comme eu le privilège de travailler quand même jeune dans le métier que je fais aujourd'hui. Fait qu'il y a Frédéric Pierre, je me rappelle, qui m'avait donné un conseil, il m'avait dit « Dépense pas plus que 15 000 pour ton premier char. »
OK.
Parce qu'il y avait beaucoup de monde, mettons, qui... pouvait partir, mettons, sur une ballonne puis comme s'acheter, tu sais, j'ai des amis qui s'achetaient, mettons, une Audi TT, tu sais, comme premier char, puis t'es comme, fais pas ça, là, ton premier char, c'est pas fait pour triper, là, c'est fait plus
tu vas
pour...
le poker de toute façon.
Ben, c'est ça, tu sais.
C'est ça.
Fait que j'avais acheté une Mazda 3, c'était ça mon premier char.
OK.
Pis, avec les ailes un peu rouillées?
Non, il était quand même bien. Il était, mais c'est vrai
à 15 000, il n'y avait pas de trous.
À 15 000, il n'était pas encore rouillé.
À 12 000, les trous commençaient.
C'est ça. Mais non, puis après, j'ai eu 3 chars dans ma vie.
OK.
Après ça, j'ai eu une Chevrolet Cruze. Puis là, je suis passé avec Volkswagen.
OK, fait que ouais, ton historique automobile est un peu moins élaboré que le mien quand même.
Non, c'est ça. Je pense que... mais tu dois en avoir un petit peu plus que moi, mais...
Depuis le début de l'année 2023, tu as possédé plus de nouvelles autos.
Oui, je l'ai acheté plus que lui en carrière.
Ouais,
c'est ça.
Ouais, bon, okay. Dans toute ma vie, là.
mais t'es-tu quelqu'un qui aime conduire? T'as-tu ça en toi? T'as-tu...
J'adore conduire. Je veux toujours être la personne qui conduit. J'ai toujours... tu sais, c'est mon père, moi, qui m'a montré à conduire, puis... Mon père avait finalement réussi à s'acheter un pick-up, mais je me rappelle, c'était un vieux pick-up jaune. Puis il était manuel, puis j'ai appris à conduire sur le vieux pick-up manuel de mon père, tu sais. Fait que il m'a fait conduire.
Ça sent le Ranger.
C'est ça.
Ça sent le Ranger.
Le Ford Ranger du ministère des Transports, quelque chose comme ça. Là.
C'était comme un petit pick-up GMC, je pense, avec comme
GMC.
Des griffes.
Ah oui, OK.
Des griffes sur le côté, là, tu sais. Le pick-up a des tatous, là, tu sais. C'était vraiment spécial.
Oh, ouais.
Puis j'ai appris à conduire là-dessus, puis après ça, une première fois que j'essaie de conduire, il m'a fait prendre l'autoroute, puis depuis ce temps-là, tu sais, depuis que j'ai 16 ans, je conduis, puis j'aime ça conduire, là, tu sais.
Bon, puis là, évidemment, on a fait appel à toi chez Volkswagen. Comment ça t'est arrivé, cette offre-là?
C'est arrivé par mon agent. Je pense que Volkswagen cherchait une personne pour faire les publicités avec eux. Puis, tu sais, moi, mon but dans la vie, c'est pas de faire de la publicité. Tu sais, je suis comme comédien. Fait que j'aurais pas accepté.
Comme comédien.
Mais je suis
comédien.
Mais c'est surtout, tu sais, j'aurais pas dit oui à n'importe qui pour faire n'importe quoi. Tu sais, moi, j'avais envie d'un partenariat où on travaille ensemble. Puis Volkswagen sont arrivés, puis ils étaient tellement ouverts. Il y avait tellement des concepts le fun, drôles, que j'étais comme, ah, ça me tente de faire ça. Ça me tentait pas de faire une pub en me disant comme, spacieux et économique, le nouveau, tu sais, ça me tentait pas de faire ça.
Tapis et pneus d'hiver inclus à partir de tel prix.
C'est ça, c'est de faire un déferlement de chiffres, paiement aux 2 semaines.
Exact. Tu sais, moi, j'étais comme, je veux que si vous me prenez moi, ça fasse une différence dans les pubs que le monde va voir. Je veux pas que ça soit juste une face que tu peux remplacer avec n'importe qui. Là, puis il était super ouvert, puis j'aime tellement notre partenariat, moi, Volkswagen, en ce moment. On fait vraiment des belles affaires. Je trouve qu'on se démarque avec nos publicités, puis tout ça. Puis c'est vraiment un partenariat le fun, puis je suis super content que ça soit arrivé. Là,
quelle est ton implication, ton degré d'implication, en fait, dans le processus créatif? Est-ce que tu fais partie des scripts et de la réalisation, ou tu arrives et tu donnes ton grain de sel dans tout ça?
Je pense que c'est plus de catégorie grain de sel, mais gros grain de sel.
D'accord.
Quand même comme du gros grain. Mais c'est souvent, mettons, dépendamment pourquoi aussi, on a fait beaucoup de pubs sur Instagram.
Ouais.
Puis ça, j'ai fait partie du brainstorm où on a trouvé les idées, puis on a trouvé les concepts qu'on allait faire. Je laisse quand même, tu sais, les créatifs écrire les scripts, puis tout ça, mais il y a toujours un retour, il me remonte, mettons, ce qu'on écrit, puis là, moi, j'analyse ça, puis je dis, on devrait peut-être changer ça, faire ça comme ça. Puis à la réalisation aussi, tu sais, ça, c'est juste moi qui me mêle pas de mes affaires, mais tu sais, je dis toujours, mettons, je pense qu'on devrait faire ça, je pense qu'on devrait le tourner de même, mais
parce qu'on
toujours quelqu'un au poste.
On le sent, on sent ces publicités-là pas très loin de ta personnalité et de ton rôle de comédien, là.
Exact, tu sais, c'est ça. Moi, je suis comme, je veux que ça me ressemble, tu sais, je veux que ça soit à ma couleur, ma saveur, tu sais. Fait qu'ils sont super ouverts, c'est ça qu'ils veulent aussi. Fait qu'on a trouvé des concepts le fun, puis on essaie de les faire.
En même temps, si je me trompe pas, ce sont des pubs qui sont créés ici au Québec,
oui,
pour le marché du Québec, donc distinct du marché canadien anglophone. Et on sait que toi étant le porte-parole, on va adapter le type de contenu à ce que toi tu représentes et t'aimes faire.
Exact. Mais tu sais, puis fait intéressant quand même, la dernière pub qu'on a tournée du pompiste, où tu sais, c'est, ouais, un pompiste, mettons, qui est triste parce que plus personne va mettre de gaz.
Avec les pétroles Maurice ou les pétroles.
Ouais, ça, j'ai trouvé, ouais, ça curieux. On voit la barrière de la station
très service. Clairement, ouais.
Ouais, c'est qui n'existe plus, je pense, cette station service-là.
Ah, okay.
Ça a été comme sa dernière utilisation, ça a été notre pub. Mais non, mais justement, ils ont tellement aimé la pub.
Ouais.
Qu'ils ont dit, on regrette de ne pas l'avoir tourné en anglais pour le Canada anglais, parce que tout le monde aurait pu s'identifier à cette publicité.
Patrol Maurice, par exemple, c'est.
Patrol Maurice.
Patrol Maurice et Pierre Luc Funk.
Ouais, c'est deux mots qui existent très bien en anglais.
C'est, comment ils t'appellent, j'imagine, c'est.
PLF.
PLF.
Ah, PLF,
ouais. Il y a GLT.
Il y avait
GLT. Il y a Mélissa Desormeaux-Poulin aussi. Oui. Bon, on a tous des noms composés.
C'est tous des noms qui se disent pas super bien en anglais.
En anglais, c'est charmant des ententes. Mais bref. Évidemment, j'imagine que quand tu t'es installé avec les gens de Volkswagen, ils t'ont un peu parlé de l'image qu'ils voulaient refléter.
Bon, oui.
On sait que si on recule pas si loin, ben, il y a eu le Dieselgate, il y a eu le scandale Volkswagen avant que toi t'arrives, bien évidemment. Moi, je trouve personnellement que Volkswagen a joué ses cartes très brillamment avec la façon de faire oublier ça et de ramener la clientèle rapidement en concession.
Puis je pense même pas que c'était une affaire de faire oublier, plus de, bon, on va vous montrer par des actions qu'on va aller dans la bonne direction à partir de maintenant. T'sais, moi, c'est ça que j'ai mis dans leur approche, là.
Mais qu'est-ce qu'on te demande en termes de, voici l'image qu'on veut refléter et voici ce qu'on te demande pour que ça arrive?
Ben, c'était une espèce de commun accord, tu sais, parce que je pense pas, moi, tu sais, mettons, j'ai animé la soirée Mammouth, mettons, on parle beaucoup d'environnement, ouais, on parle beaucoup de trucs comme ça. Fait que, tu sais, j'aurais pas dit oui à, mettons, être porte-parole, mettons, de gros pick-up à essence, là, tu sais, comme j'aurais pas pu.
Tu laisses ça à Martin Petit, mettons.
Ben, tu sais, c'est
puis, plus. Puis à Marc Dupré qu'on salue.
C'est ça. Ouais.
Non, mais tu sais, mais c'est correct, tu sais, dans le sens, les gars font ce qu'ils veulent, tu sais, mais moi, avec ma couleur, avec ce que je prône un peu, tu sais.
Puis il y a une différence de génération, moi, aussi, je pense.
Ben, un peu, tu sais, oui, aussi, tu sais. Fait que moi, je me suis juste. J'ai dit, moi, c'est sûr que quand j'ai vu que les D4 allaient sortir, c'est comme, moi, si vous me prêtez une voiture, je veux que ça soit une voiture électrique. C'est sûr que j'aime beaucoup promouvoir les voitures électriques. Puis c'est ça que je voulais mettre beaucoup de l'avant. Puis eux aussi, c'est ça qu'ils voulaient mettre de l'avant, okay, en disant, on veut inciter vers le changement, tu sais. Soyons le changement, tu sais. C'est ça le slogan, tu sais. Fait que.
Voilà,
je pense que
il est plugué, c'est fait.
Ouais, ça, c'est fait. Mais c'est ça, mais tu sais, ça allait ensemble, tu sais. Je pense que c'était des points de vue communs, tu sais. C'est pour ça que ça a fait un bon match.
Oh ouais.
On sait qu'au Québec, il y a eu beaucoup de campagnes publicitaires avec des porte-paroles typiquement québécois. On est de la même génération, toi et moi, même si ça paraît peut-être pas. est-ce qu'il y a des campagnes ou des porte-paroles qui t'ont marqué davantage?
Ah, mon Dieu, c'est... Ben, moi, c'est sûr aussi que j'étais un gros fan de TV, puis tu sais, je pense que pendant que j'écoutais vraiment beaucoup la TV, c'était beaucoup Martin et Matt avec Honda, voilà. Tu sais.
Ouais.
Tu sais, mais c'est celle-là qui me vient en tête en premier, puis le fameux aussi Vroom Vroom chuchoté, là, tu sais, qu'on se répétait chez nous.
Vroom Vroom chuchoté?
Mais tu sais, le fameux Vroom Vroom.
Ah oui, 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 d'accord, chez Mazda. Chez Mazda.
Petite anecdote, quand cette campagne publicitaire-là a commencé chez Mazda, en français, c'était Vroom Vroom, en anglais, c'était Zoom Zoom.
Ah ouais?
Et j'ai des amis qui travaillent dans l'industrie automobile qui s'occupaient de faire les salons automobiles canadiens. Mais à cette époque-là, on faisait jouer des CD dans des kiosques ou dans les
emplacements,
les espaces dédiés à Mazda dans les salons automobiles. Et c'est un CD qui durait 80 minutes où tu entendais en continu « Zoom, 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 yeah, zoom, 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 zoom. »
Pendant 80 minutes.
Quand le CD terminait, on leur partait. Fait que les gens qui travaillaient dans le kiosque se tapaient ça pendant 10 heures. Et
c'est direct à Pinel, ça?
C'était épouvantable. Non, mais attends.
Tu finis ta semaine.
J'ai un de mes colocs de l'époque qui travaillait pour Mazda, et à la fin du salon de l'auto, j'avais volontairement volé le CD que j'avais ramené chez moi et que je faisais jouer le soir dans le salon quand il rentrait pour l'écœurer encore. C'est un running gag 20 ans plus tard, mais ça, c'était épouvantable. Oui, on fait beaucoup de chemin avec ça, mais là, c'est disparu.
C'est des slogans de voiture aussi qui nous restent. Le fameux DAS Auto, tu sais. Je savais pas ce que ça voulait dire quand j'étais petit, là, tu sais, puis je le répétais.
Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que Martin Matt a marqué. Puis il s'est impliqué lui aussi dans le processus créatif. C'est peut-être à partir de là aussi que dans le milieu artistique, on s'est peut-être rendu compte qu'un porte-parole pour un constructeur automobile au Québec, ça peut être important, ça peut aussi être payant. Évidemment, on ne parlera pas de tes cachets, c'est pas ça, mais ça peut. Ce sont des contrats très importants pour les différents porte-paroles automobiles au Québec. Et ils se sont multipliés parce que dans les années 80-90, il y en a eu quelques-uns, là, André-Philippe Gagnon, entre autres, Céline Dion, Normand Brathwaite, quelques-uns, mais ça pas été si grand que ça. Aujourd'hui, il y en a plus d'une dizaine pour différentes marques, avec des approches qui sont complètement différentes aussi.
Non, puis c'est ça, puis je pense que ce que j'aimais, mettons, des pubs de Martin, c'est qu'il avait l'air de s'impliquer, puis c'est ça que j'aime faire, puis que j'essaye de faire moi aussi, justement, pour...
Bien, on le voit dans Maxi.
Exact, tu sais, c'est sentir que ce n'est pas simplement un visage, mais c'est une personne qui participe à la création de contenu, là,
tu sais. Tu me disais conduire un Volkswagen ID4.
Oui.
Tu es au fait, évidemment, des futurs produits électriques qui vont arriver.
Mm-hmm.
Qu'est-ce qui te fait triper dans ces véhicules-là?
Bien, ce qui me fait triper, c'est sûr qu'il n'y a aucune émission de gaz, là, tu sais, mettons, ça, c'est sûr que ça me fait triper, mais je trouve que la
conduite... Parce que tu es quand même passé d'une Cruze à un ID4.
Oui, mais j'ai essayé le Tiguan aussi au début, parce que, tu sais, je veux dire, il y avait une bonne liste d'attente pour le ID4, tu sais, j'étais bien plugué, par exemple.
Je te confirme qu'il y en a encore
ouais,
une.
Oui. J'étais bien plugué avec le président de Volkswagen, il m'a dit, on va essayer de faire ça un peu plus vite, fait que j'avais un Tiguan avant, mais, tu sais, avec le ID4, je trouve que la conduite est vraiment... plus smooth, là, tu sais. Je trouve que c'est vraiment comme un petit vaisseau spatial qui flotte, là, tu sais. Puis, ce que j'aime vraiment beaucoup et que je trouve vraiment le fun à utiliser, c'est la fonction B.
Oui.
Sur
qui permet de régénérer de manière un peu plus agressive.
Oui, la conduite à une pédale. Oui. Tu sais, mettons, j'adore ça. Tu sais, ça te prend, mettons, un petit 3 jours, mettons, t'habituer, là, tu sais. Mais une fois que tu le maîtrises bien, je suis comme, c'est tellement une bonne façon de conduire. Plus, je trouve ça plus sécuritaire, tu roules moins vite, tes freinages sont ultra smooth. Je trouve vraiment que cette fonction-là sur les voitures électriques, c'est un gros plus.
Oui, oui. Ouais.
Qu'est-ce qui t'attend chez Volkswagen, sans entrer dans des détails, là? C'est quoi les prochains projets avec la marque?
Ben là, on a fini comme un gros blitz, en fait.
De tournage de publicité?
Ben, on a tourné la publicité pour le bye-bye. On avait tourné la publicité juste avant. Fait que là, je pense qu'on va rentrer dans un nouveau cycle où, là, en ce moment, c'est la période de transition pour quels sont les futurs projets, qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant, ça va être quoi les pubs qu'on va faire. Mais je suis content parce qu'il y a toujours des idées créatives, le fun, tu sais, comme en ce moment, je sais pas si le droit d'en parler, je vous donne une primeur, là. Mais tu sais, souvent, mettons, quand il n'y a plus d'émission à TV, il y a comme une espèce d'image qui reste à la télévision quand même en attendant.
Ouais.
Puis ils veulent qu'on on fasse justement une recharge de ID4 puis que moi je rentre puis que je sorte toute la nuit, mettons, pendant avant que les émissions recommencent.
Donc on, vraiment... on placerait une caméra chez toi en temps réel.
Ben, je pense que moi je me déplacerai dans un studio.
Il reste 16 minutes avant que la charge soit terminée, donc avant que la prochaine émission reparte. Ça pourrait être une affaire de même.
Exact. Je trouve que c'est des idées créatives, le fun.
Je pense que l'espace publicitaire en pleine nuit doit être assez disponible. Là,
oui, c'est ça. Je pense qu'il y a des chaînes de nouvelles en continu, c'est moyen.
Oui, oui, oui.
Mais sinon, c'est ça, on va plus viser quand il n'y a pas d'émission. Là,
c'est ça.
Puis en plus, ça ferait zéro émission pendant qu'il y a zéro émission.
Oh, que c'est extraordinaire.
On n'aime pas beaucoup les jeux de mots ici.
Vous le couperez au monde.
C'est ça, exactement. Alors, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui patientent depuis un certain moment pour avoir leur ID4 ou qu'ils ont mis leur nom pour obtenir le prochain ID Buzz? J'aime mieux dire ID Buzz. ID Buzz, c'est...
ID Buzz, hein?
Ouais, c'est vraiment...
C'est comme... On a tout le temps l'impression que...
Mais il y a un temps d'attente...
Ça, il est exceptionnel aussi.
Germain,
quand j'ai
le conduit, d'ailleurs.
Ouais, tu le conduis?
Oui, cet automne, j'ai été à Copenhague pour conduire la version européenne.
Oui, parce qu'il est juste en Europe en ce moment.
Exactement.
Ça va être en 2024 qu'on va l'avoir.
Moi, j'allais à Laval conduire le Taos. C'est...
Ben, chacun ses privilèges.
C'est ça.
Mais ça doit être.
Mais que dirais-tu aux gens qui ont un délai d'attente de 2 ans pour mettre la main sur un véhicule comme ça, outre que, oui, l'attente en vaut la peine parce que t'aimes le produit?
En même temps, ce que j'aurais à leur dire, tu sais, je pense que de toute façon aussi, en ce moment, si le but c'est la rapidité, c'est sûr que c'est pas ça l'enjeu. Tu sais, je pense que le but de l'attente, c'est que tu veux ce type de produit-là, tu veux faire partie du changement, tu veux ce type de véhicule-là avec ce type de conduite-là. Mais je pense que, en effet, ce n'est pas l'affaire la plus efficace, mais en même temps, partout, il y a de l'attente. Là, tu sais, ce n'est pas uniquement...
Ouais, c'est pas un problème qui est propre à Volkswagen.
Exact. Fait que là, après ça, c'est qu'est-ce que tu vas choisir pour attendre. Puis c'est là où je trouve que ça vaut la peine. Parce que, sérieusement, tu sais, quand t'es jeune, on dirait que tu rêves toujours, mettons, de chars qui vont vite puis qui font du bruit puis tout ça. Puis plus je vieillis, puis sincèrement, mettons, quand j'ai reçu les D4, j'ai fait « c'est mon char de rêve en ce moment ».
Si plus je vieillis, j'ai pas hâte que t'ailles mon âge.
Non, mais tu sais, au début, t'es comme des monster trucks, c'est ça, je veux conduire dans la vie. Puis là, tu sais, je trouve que
les 14
ans, tu vas avoir ton scooter puis le faire sonner sur le coin des rues.
Exact, tu te mets une carte dans ton vélo puis t'es comme « un jour, je vais avoir une moto ».
C'est ça.
Mais tu sais, c'est ça, tu sais, puis je trouve qu'en ce moment, vu qu'il y a d'attente partout, je trouve que ça vaut la peine d'attendre, puis je suis garanti aux gens qui seront pas déçus. Là,
c'était quoi ta perception, pour le fun, de la marque Volkswagen avant qu'on t'approche pour ça? Qu'est-ce que tu avais quand on te parlait d'une Volkswagen, c'était quoi pour toi? Il y a eu une Mazda puis une Chevrolet. Puis...
Ben moi, ma soeur conduisait une Golf.
OK.
Puis, mais justement, tu sais, je pense que j'étais pas si à l'affût des marques que ça.
Parce que pour ta gouverne, Marie-Lou Wolfe et Marie-Lou ont possédé des Golf avant d'être porte-parole de Chevrolet et de
Hyundai. Ah oui, moi, j'ai fait le contraire.
Fait que je trouve ça assez curieux parce qu'elles nous ont confié avoir possédé des Golf avant d'être approchées.
Ah ouais.
Alors que toi, t'as été approché par Volkswagen, puis c'est pas ça que t'as eu.
Ben oui.
Ironiquement, t'as eu une Chevrolet, puis bon. Fait que les choses se sont faites...
Mais la Cruze n'existe plus. Alors non, c'est pas ça. Grave.
Mais je pense que c'est vrai.
Ah non? Mais là, je pense que mes connaissances, en fait, en voiture... je commence à me créer, mettons, des connaissances en voiture. Je commence à voir la différence avec les marques. C'est comme si je m'étais pas mis le nez dedans quand j'étais jeune, puis que maintenant que je suis porte-parole, là, je me mets le nez dedans, puis que là, je me mets à me faire une idée, tu sais. Mais justement, quand je me suis mis à conduire une Volkswagen, puis quand j'ai été chercher ma voiture, puis qu'on m'a montré les chars, puis qu'on m'a montré, mettons, c'était quoi les caractéristiques de chacune des voitures, c'est là que j'ai compris c'était quoi Volkswagen. Puis, mettons, je trouve que c'est vraiment... je trouve que c'est de la gamme, mettons, accessible, mais je trouve que ça a un petit plus que la gamme accessible que j'ai connue, moi, dans ma vie, mettons.
Un petit côté premium.
Oui, il y a un petit côté premium, je trouve, à Volkswagen. T'sais, on dirait que t'es comme... Je me sens comme dans une auto, mettons, haut de gamme, mais quand je suis dans une voiture de tous les jours. Là,
en même temps, c'est sûr qu'un ID4, il y a un aspect technologique très avant-gardiste que tu n'as peut-être pas avec un véhicule plus rationnel comme une Jetta ou une Tiguan. Là.
Exact. Mais même ma copine, moi, a pris une Jetta maintenant. Elle a réussi à avoir une Jetta avec. Grâce à
des
contacts.
Elle a des bonnes connexions.
Elle a des bonnes connexions. Mais puis justement, j'étais embarqué dans cette Jetta, puis je me suis mis à triper. Juste la Moi, on dirait que je m'attends sur des détails niaiseux, là, mais juste la petite ligne droite dans le volant. Juste les je trouve ça le fun. Je les trouve belles, je les trouve sportives.
L'éclairage d'ambiance, l'écran, les petits trucs.
Exact. Puis, en tout cas, c'est comme là que je développe mes connaissances, mais je trouve que Vaux, en ce moment, m'apporte beaucoup de confort puis un petit sentiment de luxe au quotidien d'avoir l'impression de conduire une auto comme de haute qualité.
Tu as conduit un Tiguan avant d'avoir ton ID4 pendant quelques semaines, quelques mois. Est-ce que tu as trouvé la définition du mot tiguané?
Tiguané,
parce qu'on la cherche encore.
Ouais.
Tu sais, on invente des fois chez des agences des mots qu'on comprend pas.
Comme
je pense à
adrénalinologie.
Ça, c'est imprononçable.
Je vois
comment Karine Vanasse réussit à faire ça. Adrénalinologie, puis je le pratique là. Puis je vais aller chaler du monde au salon de l'auto en fin de semaine pour les faire
dire
le mot adrénalinologie. C'est épouvantable. Mais tiguané, je cherche encore la...
Mais moi, je pense que ça, c'est une traduction de l'anglais. Là. Je pense que... Tiguané, mais j'ai compris c'était quoi. C'est conduire un Tiguan, tu sais, je pense qu'il faut pas... Mais moi, j'essaie de pousser bien fort chez Volkswagen qu'ils sortent le gros Guan.
Oui.
Fait qu'il y a eu le Tiguan, là, j'aimerais ça sortir le gros Guan. À date, ça passe pas.
Non.
Fait que je continue à travailler, mais moi, c'est mon projet, là, tu sais, pour faire mon petit jeu de mots. Mais Tiguané, j'ai pas... À part conduire un Tiguan, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais il y a de l'espace. C'est fou l'espace qu'il y a quand même.
Oh oui, absolument.
La valise.
On a fait un verbe avec un mot qui était déjà une création, parce que Tiguan, c'est le mot collé de tigre et iguane. On en a fait un mot.
Pour vrai?
Oui.
Mais tu vois, tu m'apprends ça. Bon. Je ne savais pas.
Mais tu ne seras pas venu pour rien.
Tigre? Ah ben non, certainement pas. Mais on a fait aussi une des publicités qui était Tiguan versus Iguane.
Oui.
Sur les réseaux, qui est une de mes préférées.
Je l'ai ratée, celle-là.
Je t'ai montré.
D'après moi, je passe assez souvent sur Facebook.
Je vais vous montrer ça, les gars.
Sur ta tablette, Antoine.
Ah, c'est ça.
Voilà.
C'est ça. Entre deux games de solitaire. Ben, écoute, Pierre-Luc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir. Longue vie à ton association avec Volkswagen.
Ben, c'est bien gentil.
Et puis, défends les hommes, là, en tant que porte-parole. Il y a juste des filles là, dans ce monsieur-là.
Je fais de mon mieux, les gars.
Il y a juste des filles puis d'autres gars qui font des PK.
Ouais, c'est ça. Et la prochaine fois que tu reviens...
Je suis entre les deux, moi. Je suis entre le gars PK puis la femme.
Mais tu sais que Volkswagen a peut-être l'intention d'amener un PK sur le marché américain. C'est pas impossible qu'on te demande un jour d'en présenter un.
Ah, mais écoute, ça va me faire plaisir. Moi, tant qu'il y a une belle... je cherche mes mots. Tant qu'il y a un peu de tout...
On me dit, par contre, qu'il n'est pas nécessairement possible qu'on fasse un pick-up jaune avec des griffes sur les côtés.
Non, c'est mieux pour le bien de l'humanité.
On
t'a épargné cette fois-ci, mais la prochaine fois que tu seras des nôtres, on fera le quiz Volkswagen avec toi.
Oui. Yes.
Cube Radio.